Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue à Kolkata, nouveau nom de Calcutta, capitale du Bengale occidental en Inde, ville née à la fin du XVIIe siècle et qui concentre toutes les contradictions culturelles, religieuses, politiques, où misère et beauté, sacrée et profane se côtoient, où ont vécu les personnalités les plus diverses, de Tagore, bien sûr, prix Nobel de littérature, à Mère Teresa, qui a voué sa vie aux plus pauvres, en passant par Satyajit Ray, le cinéaste. Une mégalopole de 15 millions d'habitants, une cité grouillante et vivante dont l'histoire et les singularités nous sont racontées dans un livre à la fois très documenté, mais aussi très incarné, à l'image de son titre « Autoportrait de Calcutta » paru au Seuil et signé de notre invitée, écrivaine et philosophe, auteur d'une soixantaine d'ouvrages. Bonjour Catherine Clément.
Bonjour.
On connaît votre amour pour l'Inde, que vous avez célébré à plusieurs reprises dans vos romans ou vos essais. Mais avant de parler avec vous de Calcutta en particulier, est-ce que vous voulez bien raconter à nos auditrices et à nos auditeurs pourquoi ce sous-continent vous fascine-t-il à ce point?
En tout cas, pas pour la mystique. Commençons par écarter ça. C'est comme Descartes, vous savez, j'écarte tous les phénomènes matériels. Moi, j'écarte la mystique parce que là-bas, sur place, elle est essentiellement un objet de commerce. Et les Indiens se marrent beaucoup que les Occidentaux marchent dans ce commerce-là. Donc, passez pas ça. Non, c'est un chaos permanent qui se répare de façon permanente. C'est-à-dire, c'est sans arrêt des situations impossibles, particulièrement en ce moment. Et puis, il y a déjà des démarches de réparation qui commencent en Inde. Totale surprise, mais je l'ai appris de ces jours-ci. Il y a des volontaires qui sont en train de réparer le tissu de l'Inde. Et c'est toujours pareil. Catastrophe du point de vue du gouvernement et réparation par la base, avec une solidarité inconnue chez nous, vraiment inconnue chez nous, qui tient beaucoup au statut de la famille, mais à autre chose aussi, qui est l'amour de l'humanité, tout simplement. Je ne veux pas dire qu'ils sont tous bien, hein. Il y a des salopards, bah, évidemment. Mais la façon dont ce pays se répare à mesure, et ce pays, ils sont quand même 1,3 milliard. Et du haut en bas, moi je le connais à peu près du haut en bas, c'est la même chose.
Est-ce que ça a été un choc dès votre premier voyage, dès votre première arrivée, en quelle année d'ailleurs?
1983. Le choc était inverse, je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas y aller parce que, ayant perdu ses parents à Auschwitz, ma mère s'est embarquée dans une secte. Ben, la secte, une des sectes dont je parle, secte en Inde étant le contraire de chez nous, une secte c'est bien. Ici, c'est mal, mais là-bas, c'est très, très utile parce que c'est égalitaire. Les sectes sont toutes égalitaires. Et c'était la secte, la Ramakrishna Mission. Donc, moi, j'avais quel âge? Je devais avoir 5-6 ans. Et mon petit frère était tout petit. Et on a vu une maman qui s'habillait d'orange et qui soufflait dans la conque tous les matins. Et franchement, ça nous a marqué à l'avance tous les deux. Et donc, il a fallu que le Quai d'Orsay me mette quasiment de force dans un avion. Donc, le choc a été inverse. Je me suis aperçu que, ben, il y avait le ciel bleu, et puis il y avait un perroquet sur une branche, tout près de moi. Et ça a commencé comme ça, l'amour de l'Inde.
Et Calcutta, est-ce que c'est vraiment la ville qui vous fascine le plus?
Fasciné n'est pas le vrai mot. D'abord, j'y ai travaillé. J'ai travaillé à Bombay et à Calcutta. Je peux vous dire, j'ai travaillé avec les gens de Bombay et les gens de Calcutta. Il n'y a pas photo. Calcutta, c'est beaucoup plus facile. Bombay sont des gens très arrogants. Delhi, c'est l'administration. Mais enfin, c'est une ville presque, oui, féroce et tendre. En tout cas, tendre aussi. J'y ai fait des tas de trucs et j'ai toujours trouvé ça formidable. J'ai trouvé cette ville formidable.
Très attachante.
Est-ce que c'est attachant? On dort mieux quand on s'en va quand même, hein. On se repose un petit peu quand on s'en va. C'est pas une ville qui repose du tout. C'est pas fait pour les gens qui cherchent le repos, mais pour se régénérer, oui. Oui, c'est bien.
En tout cas, c'est une ville dont, rappelons-le aussi, qui a été la capitale de l'Empire britannique jusqu'en 1911, n'est-ce pas? Et qui, après, c'est pour ça que je disais attachante, parce que il me semble que dans l'architecture, il y a quelque chose qui a été abandonné à ce moment-là, qui est resté suspendu. Et on a l'impression de se promener encore parfois dans certaines ruelles de cette époque, d'où ce côté, en effet, très attachant. Cette ville dont ses habitants sont très fiers, comme en témoigne Chimnoy Gua, un universitaire, traducteur, que j'ai rencontré à Calcutta, justement. Voici ce qu'il dit de sa ville.
Calcutta, c'est le centre culturel de l'Inde, comme vous savez. Donc, il y a des poètes partout. Il y a 5000 poètes à Calcutta. On dit même, quand il y a un Bengali, il est poète. Quand il y a deux Bengalis, il y a un parti politique. Quand il y a trois Bengalis, il y a deux partis politiques. Hein. Donc, on est intéressé par la littérature et la politique. Une contradiction extraordinaire. C'est une ville sordide et fascinante, très baudelairien.
Votre réaction, Catherine Clément, à cette présentation de Calcutta ?
Sur les partis politiques, c'est vrai. Et sur la poésie, oui, tous les poètes musulmans sont à Calcutta et à Delhi. Et la langue ourdou est formidable et les ghazals qu'on chante sont formidables. Je dis cela d'autant plus que les musulmans sont fort persécutés en Inde par le Premier ministre Modi, qui est un fanatique. Fanatique et un raciste.
Une ville contradictoire. Et effectivement, c'est ce que nous allons aborder tout de suite avec vous, Catherine Clément. C'est ce qui ressort de ce livre Autoportrait de Calcutta. Sachant que il faut parler d'abord du parti pris littéraire que vous choisissez, parler à la première personne, comme si c'était Calcutta qui se livrait sous les yeux des lectrices et des lecteurs. Pourquoi ?
Eh bien, il y a une histoire derrière. À ma totale surprise, le patron du Seuil, Hugues Jallon, que je ne connaissais pas, la première fois qu'il m'a reçu comme auteur du Seuil, m'a dit immédiatement, je veux que vous me fassiez une biographie de Calcutta. Alors, je ne sais pas comment il a su que je connaissais bien Calcutta, mais enfin, après tout, ça peut se savoir. Ça. Et quand je me suis mise à écrire, je n'ai pas vu d'autre moyen que de la raconter elle-même. Cela dit, ce sont des choses que j'aime bien en littérature, puisque j'ai quand même fait un très gros roman dont le narrateur est une corne de rhinocéros. Donc, on peut faire parler qui on veut, ou ce qu'on veut.
Sachant que vous ne proposez pas un déroulé historique, chronologique, vous, ce qui vous intéresse...
Ah non, c'est pas du tout chronologique, non.
Voilà, ce qui vous intéresse, c'est de prendre des sujets, de prendre des rituels, des déesses, des personnalités, et puis avec beaucoup de verve, avec beaucoup d'ironie, parfois d'acidité, de donner votre point de vue. Est-ce que c'est difficile de se mettre comme ça dans la peau d'une ville ?
Est-ce que je peux faire un léger corrigé ?
Je vous en prie.
C'est pas ironique, c'est que c'est une ville double. Elle est profondément anglaise, puisqu'elle a été entièrement fondée par des Anglais. Entièrement, ils ont pris trois masures et ils ont fait un petit fort. Hein, et puis après, c'est devenu une grande ville. Ils l'ont faite de A à Z. Elle n'est Calcutta que Kolkata que depuis quelques dizaines d'années. C'est très récent. Et d'autre part, elle est ironique, cette ville. Charmeuse, assez douce, je trouve. Et oui, il faut en trouver la douceur. Hein. Il faut en trouver la douceur, mais elle existe. Et ambivalente, parce qu'elle est à la fois très indienne et restée très anglaise.
Alors, quelle était votre priorité ? Est-ce que c'était instruire ceux qui n'y sont jamais allés ? C'était distraire aussi peut-être un certain public ? Démonter les stéréotypes, parce que Calcutta, hélas, a beaucoup de clichés ? Voire rendre hommage à celles et ceux qui ont compté, mais qui sont oubliés aujourd'hui ?
Un peu tout à la fois, mais la priorité, c'était de débarrasser du préjugé majeur, et qui est le préjugé des mendiants. Ça, c'est le premier truc. Et ça fait longtemps, en fait, que je traîne ça, depuis très très longtemps, depuis le sanglot de l'homme blanc de M. Bruckner, qui a écrit au début de son livre qu'à Calcutta, quand on sort d'un hôtel, on devient raciste en 24 heures. Voilà. Alors, moi pas. Hein. Donc, c'était ça d'abord que je voulais écarter. Non, les mendiants de Calcutta ne sont pas uniques au monde. Il n'y en a pas qu'à Calcutta, il y en a partout en Inde. Ce sont des mafias. C'est comme au Moyen-Âge, à Paris, il y a une mafia. C'est une mafia, vraiment, avec des gens horribles qui amputent, en effet, les petits pour les rendre plus mendiables, si je peux employer cette expression. Très bien, une fois qu'on a dit ça, il y a tout le reste. Et une fois qu'on a dit ça, on ne sait d'ailleurs pas comment lutter contre ça. C'est aussi difficile que la vraie mafia en Italie. Donc ça, on sépare. Et on enlève à Calcutta cette horrible... Ça rend raciste, enfin c'est abominable. Oui, je voulais vraiment nettoyer le terrain.
Donc débarrasser des stéréotypes, mais aussi rendre hommage à ceux qui avaient été importants pour Calcutta.
Pour commencer, c'est Ramakrishna, moi, dans mon esprit. C'est ce petit brahmane pauvre. Là-dessus, j'ai appris, moi-même, en travaillant, j'ai découvert quelque chose d'incroyable que je n'avais jamais compris de l'Inde. C'est que Ramakrishna était pauvre, brahmane, Il devient un saint mystique, très bien. C'est pratiquement la seule issue qu'il ait. Il n'en a pas d'autre économiquement, pour vivre, je veux dire. Hein. Et les grands brahmanes de Calcutta, donc Tagore, donc, enfin, il y en a pas mal quand même. Hein. Et la famille Nehru, pareil, ils ne sont pas du tout de Calcutta, mais ils entrent dans la catégorie des brahmanes Pirali, P-I-R-A-L-I. Et je ne connaissais pas du tout ça. Et les brahmanes Pirali sont les brahmanes qui ont collaboré avec les Moghols. Et donc, il y a les brahmanes supérieurs, qui sont pauvres, qui sont mystiques, il y en a encore des comme ça. Hein. Et puis, les brahmanes qui sont dans la vie, qui peuvent devenir des guerriers, qui peuvent devenir des hommes politiques, qui peuvent devenir n'importe quoi d'ailleurs, mais qui sont dans la hiérarchie des castes déchus. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé ça formidable que les meilleurs soient des déchus.
C'est vrai, ça oui, nous donne une autre vision du monde.
Oui.
De la même façon que vous réhabilitez aussi des déesses, c'est d'autant plus intéressant que vous ne manquez pas, Catherine Clément, entre les lignes, voire noir sur blanc, de dire à quel point c'est un pays qui n'est pas assez respectueux du sort des femmes.
Oui, ça c'est une litote quand même, c'est une litote. On se demandait hier à quelques-uns qui connaissaient l'Inde si le rituel des veuves sur le bûcher n'allait pas recommencer dans cette période de grands troubles et de grandes catastrophes qui s'abat sur l'Inde actuelle. On ne sait pas, mais on en est venu à penser que c'était possible. C'est déjà un signe, oui, là, mais métaphysiquement, la femme est une paria, déjà, pour commencer. Et quand elle se marie, la femme, ou simplement prendre les habitudes des mariages telles que je les ai vues, hein, pas seulement à Calcutta. Donc, ne lui parle directement pas à son mari, jamais. Elle ne dit pas « tu ». Elle dit « est-ce que mon Seigneur veut bien ?» Les femmes indiennes peuvent dire ça avec de l'ironie, mais c'est quand même la formule consacrée par le rite. Et c'est leur Dieu. C'est dans les textes, lorsqu'elles sont mariées, le mari devient leur Dieu personnel.
Et à l'inverse, il y a donc une déesse qui est célébrée chaque année, Kali.
Il y a deux déesses maîtresses de Calcutta. Kali, qui est la... Elle n'est pas qu'à Calcutta, mais c'est la grande mère. C'est comme ça qu'elle est définie. Mère au sens de maman. Hein. Et puis Durga. Durga qui est la seule capable de vaincre le démon. Alors Durga, elle doit être très célébrée en ce moment. Parce que enfin, l'une et l'autre sont des déesses vengeresses qui débarrassent la terre des démons. Et je dois dire que, ayant travaillé sur la mythologie hindoue assez profondément, elle est encombrée de la terre et dévastée par les démons. Et pour la première fois, avec le Covid, j'ai compris ce que c'était. Le démon, la terre dévastée par un démon, eh bien voilà, c'est le Covid. Donc, ça fait bizarre, hein.
Oui, c'est étrange de vous entendre dire ça.
Ça veut dire que quand ils pensaient démon, ça voulait dire ou épidémie ou famine, voilà.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, la pandémie, elle est considérée comme l'œuvre du démon ?
Ah non, hélas. Le Premier ministre a donné plusieurs consignes. La première, c'est de célébrer les fêtes de façon symbolique. On verra après ce qu'il en est résulté. La deuxième, c'est de taper dans des cymbales. La troisième, c'est de prier. Et hier, de ne plus parler de variant indien. Voilà, point. La campagne de vaccination vient tout juste de commencer. Et on sait le désastre en termes épidémiques, de millions de morts et surtout de funérailles disparues. Et de non-ensevelissement, non, les corps des hindous qui ne peuvent plus brûler, il n'y a plus de bois. On les jette au fleuve, très bien, et on les jette au fleuve, et les autres, on les couvre d'une couverture, on les laisse sur le bord. Sans distanciation, pourrais-je dire, ou très peu de distanciation. Et il fait entre 35 et 40 degrés en Inde en ce moment.
Alors un dernier mot pour parler de Mère Teresa, Catherine Clément.
Mère Teresa, moi je l'ai rencontrée plusieurs fois. La plupart des choses d'ailleurs que je décris, sauf les écrivains morts, hein, j'y étais, je raconte ce que j'ai vu et fait à Calcutta. Et donc j'ai connu la sainte avant qu'elle soit sanctifiée, et c'était une femme... Mais il y a une chose qui m'a frappée, c'est sa laideur, elle était rugueuse, elle n'était pas facile, et heureusement d'ailleurs, parce que sans ça, elle n'aurait pas réussi ce qu'elle a réussi à faire à Calcutta, et elle avait des mains gigantesques, et des mains capables de... Alors ce qu'elle faisait avec ses mains, c'était un vrai miracle. Elle, il y avait dans le secteur des nourrissons, il y avait des corps de bébés mourants. Elle, avec ses grandes mains, elle ressuscitait. C'était absolument incroyable. Elle les massait. C'est certainement aussi technique, mais il n'y a pas que ça. Elle arrivait à les ressusciter quand même. Et puis, elle a été sanctifiée. Ce qui m'a beaucoup ému, c'est qu'elle a été portée, enfin, c'est pour son enterrement, qui était tout à fait chrétien, tout à fait catholique même. Elle a été, son cercueil, son petit cercueil a été mis sur le même affût de canon que celui de Gandhi. Et alors, pensez que Gandhi, qui détestait, qui n'aimait pas les armées, et que Mère Teresa ont été portés en cercueil sur le même affût de canon, ça a quelque chose. Voilà, c'est une contradiction indienne, ça aussi. Ça résume quelque chose.
Donc, montrer à quel point c'est une ville importante, se souvenir des personnalités qui l'ont marquée, qui l'ont traversée. Et à notre grande surprise, par exemple, ce grand cinéaste Satyajit Ray, qui est donc né et mort à Calcutta, qui est reconnu par le monde entier.
Peut-être, mais pas en Inde.
Mais, voilà, mais pas en Inde. Pourquoi?
La cité ne l'a pas oublié. L'Inde l'a oublié. Eh bien, pourquoi? Revenons au marchand, si vous voulez bien. Satyajit Ray a fait une crise cardiaque quand il avait une soixantaine d'années. Crise cardiaque, il n'a plus eu de producteur du tout. C'était quand même le plus grand des cinéastes, d'auteurs. C'est pas Bollywood, hein.
Non.
C'est pas la distraction ravissante des films de Bollywood. Et après sa crise cardiaque, plus aucun producteur indien n'a voulu de lui. Ça commence comme ça. Et mon compagnon, qui était à l'époque ambassadeur en Inde, nous avons reçu un jour, pour un festival international du film, Gérard Depardieu et Toscan Duplantier. Et je les ai vus, j'étais sur le bord, moi je déteste les piscines, donc j'étais pas dedans, mais eux trois barbotaient dans la piscine, quand mon compagnon leur a proposé de devenir les producteurs de Satyajit Ray. Et c'est ce qui s'est passé, tout de suite. Mais tout de suite, ils ont produit les quatre derniers films de Satyajit Ray, Gérard Depardieu et Daniel Toscan Duplantier.
C'est ce qu'on découvre en effet dans votre livre, Catherine Clément. Alors, si vous voulez bien, je vous propose d'écouter la musique d'un de ces films.
Le salon de musique, non ?
Le salon de musique, par exemple. Et on se retrouve tout de suite après, Catherine Clément. Et sur la musique du film de Satyajit Ray, Le Salon de musique, nous reprenons cette conversation avec Catherine Clément, notre invitée aujourd'hui dans Littérature sans frontières sur RFI à l'occasion de la publication de son nouveau livre intitulé Autoportrait de Calcutta, paru au Seuil. On l'a dit, ville de toutes les contradictions, de toutes les fascinations et qui a attiré donc un grand nombre de Français également. Vous citiez ainsi Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue et votre maître, Louis Malle, le réalisateur, François Mitterrand, président de la République française, Dominique Lapierre, auteur de La Cité de la Joie, mais aussi Toscan Duplantier et Gérard Depardieu qui sont venus produire les derniers films de Satyajit Ray. Mais les uns et les autres ne semblent pas avoir eu la même vision de Calcutta. C'est ce que vous écrivez, Catherine Clément. C'est vrai, donc?
Quand je suis partie en Inde, mon maître et ami Lévi-Strauss m'a dit, vous savez, j'ai écrit des tas de bêtises sur Calcutta. J'ai dit, oui, je sais, je vous remercie, je suis au courant. Je savais qu'il avait écrit ça. Quand il arrive à Calcutta, ça lui fait horreur. Et ça lui fait horreur, en particulier, sur un point très précis, c'est un caravansérail de pèlerins, il y en a partout dans toute l'Inde, en béton armé, parce que là, on n'a pas besoin de se fatiguer. On fait du béton armé pour les pèlerins, et après, on le nettoie à grande eau. Et là, il a brusquement l'impression d'être dans un camp de concentration après un gazage. Donc c'est très étonnant, c'est l'histoire de Lévi-Strauss, c'est significatif du malentendu qu'il peut y avoir sur cette ville, qui lui a vraiment fait horreur, qui lui a rappelé le camp de concentration. En même temps, il a quand même compris quelque chose de Calcutta, parce que c'est la Calcutta qui a eu le seul nazi de toute l'Inde, nazi authentique.
Hélas.
Donc il a bien pigé quelque chose. Hein. Hélas, oui. Vous ne saviez pas ça. Hein.
Non, pas du tout. Monsieur Bose.
Oui, monsieur Bose. Subhash Chandra Bose.
Voilà.
Dit Netaji, c'est-à-dire le grand chef suprême. Et qui
s'est rallié à la cause nazie.
Il ne s'est pas rallié. Il a été prendre sa carte du Parti National Socialiste qui lui a été donnée par Himmler. Et il a fondé les brigades SS indiennes. C'est très, très nazi. Donc ça, c'est Calcutta aussi. Voilà. Ça a donné lieu à ce monstre absolu qui était juste un intellectuel paumé, mais qui est devenu un monstre.
Alors revenons à nos Français. Parmi les liens privilégiés justement entre les Français et les Indiens, il y a ceux de Tagore, évidemment, écrivain de Calcutta, prix Nobel de littérature en 1913.
Le cancre absolu.
Oui.
C'est drôle de penser ça.
Mais tant mieux, on est heureux d'apprendre qu'un élève un peu rêveur et...
Un cancre qui fait
voilà, devienne prix Nobel de littérature. Ça ouvre des horizons et des perspectives à beaucoup d'entre nous.
Oui, il faut mieux avoir une vaste famille riche quand même derrière.
Ça peut aider. Et donc, Romain Rolland, qui sera lauréat du même prix, lui, 2 ans plus tard. Et à ce sujet, je vous propose, Catherine Clément, d'écouter à nouveau Chinmoy Guha, universitaire à Calcutta, et qui a traduit la correspondance entre l'auteur indien et français. Il nous raconte les relations de ces deux-là.
Tagore, qui était prix Nobel de 1913, était admiré par les habitants des quatre coins du monde. Mais il a trouvé un ami personnel, c'était Romain Rolland. Pour lui, il n'y avait qu'un ami, c'était Romain Rolland. Ils se sont mis sur la même longueur d'onde. Ils étaient contre le nationalisme, ils étaient les citoyens du monde. Donc, ce grand romancier français et ce grand poète indien sont devenus des amis. Jusqu'à la mort de Tagore en 1941, des lettres explosives sur l'humanité, sur l'avenir de l'humanité. Ils parlent de leur tristesse personnelle, ils parlent de leur échec, ils parlent de leurs rêves. C'est extraordinaire. Quand Tagore était triste, Rolland lui a écrit une belle lettre où il a dit « Ne soyez pas triste, nous avons bâti notre nid sur l'arbre de l'humanité, l'arbre de l'avenir. » Donc, c'est une correspondance que tout le monde doit lire. C'est tellement pertinent dans un monde qui s'écroule, qui tombe en poussière. On a besoin de ces gens, de ces icônes.
Rabbi Tagore, donc, toujours considéré comme un grand intellectuel à Calcutta.
C'est plus que ça, c'est une icône.
Et oui, c'est ce que
disait Donc, il est absolument intouchable. Il y a d'ailleurs une œuvre absolument énorme, considérable. On ne connaît que la partie poétique et littéraire, mais il y a une œuvre théâtrale, il y a une œuvre chorégraphique, enfin, il y a une œuvre. C'est considérable ce qu'a fait Tagore.
Et dans la génération plus proche de nous, il y a des écrivains indiens qui, eux, sont attirés par la France, ont quitté leur pays, leur ville. Et c'est le cas de la romancière Shumana Sinha, que vous citez, Catherine
absolument.
Clément. Qui est partie de Calcutta pour s'installer à Paris, où elle a publié plusieurs romans. C'est une auteure que nous aimons beaucoup aussi, ici, à RFI, que j'ai invitée dans Littérature sans frontières. Je vous propose d'écouter juste un petit extrait de l'entretien où elle nous parlait de son livre intitulé « Calcutta », justement, où elle évoquait à la fois l'Inde et ensuite pourquoi elle avait choisi d'écrire en français et non en bengali, sa langue maternelle. Shumana Sinha.
L'Inde me paraît comme un pays extrêmement compliqué, complexe en tout cas, controversé, contradictoire. Tout est mêlé en fait, on ne peut pas distinguer. Rien n'est binaire, rien n'est en noir et blanc en Inde. Il y a plusieurs Indes, même à Calcutta, il y a plusieurs Calcutta, j'ai l'impression. Donc toutes ces complexités, ça donne un sentiment de violence, un sentiment de surplein, trop plein, trop d'énergie, trop bruyant, vous voyez. Et peut-être justement de ces trop pleins, on a envie de créer une petite niche de solitude, de silence, ce qu'on crée, on cultive. La Calcutta que je décris aujourd'hui, Calcutta que je cherche, elle n'existe plus. Le paysage a changé, tout est redessiné. Donc, ce que j'essaie de retrouver, c'est pas l'espace, c'est le temps. C'est le remonter dans le passé. Tout ce que je peux dire en français, je ne peux pas le dire en bengali. Comme je ne considère pas que je suis une personne impudique, il y a des choses, il y a des mots que je ne peux pas prononcer en bengali. Il y a des sujets que je ne peux pas aborder ouvertement comme je l'aborde en français, voyez. Et donc, comme il y a encore une certaine distance entre moi et la langue française, comme si je nage dans l'eau de la langue française, je ne suis pas encore arrivée à l'autre rive. Il y a une certaine distance et cette distance me permet de dire tout ce que j'ai à dire.
Voilà, la romancière indienne Shumana Sinha qui s'exprime et qui écrit en français. Un commentaire à Catherine Clément.
Elle est géniale. Mais ça, c'est aussi bien pour ça que je termine par elle. Le livre se termine par un hommage à cette femme que je ne connais pas par ailleurs. J'ai lu ses livres, mais je ne l'ai jamais rencontrée. Et je ne connaissais pas sa voix. Et sa voix est profondément en relation avec tout le reste de ce qu'elle a écrit. C'est formidable. Alors elle représente bien Calcutta. Et plus loin elle est de Calcutta, mieux elle est Calcutta.
Alors ces liens entre nos deux pays qui devaient se concrétiser par une invitation à la littérature indienne à Livre Paris en 2020, puis en 2021, mais les manifestations ont été annulées à cause de la pandémie mondiale.
Le démon.
On a néanmoins trouvé une autre illustration de cette amitié littéraire puisqu'on vient tout juste de l'apprendre. L'Académie Goncourt, qui décerne chaque année le prix du même nom, va annoncer la création du choix Goncourt de l'Inde, à savoir une des déclinaisons internationales qui existe déjà dans de nombreux pays et où le principe est, à partir de la sélection des romans de l'automne, de faire participer les étudiants à l'étranger. Et donc, ici, prochainement, 9 universités indiennes vont être impliquées à lire 4 romans en 3 mois. Un académicien annoncera le choix de l'Inde sur place. Et tout ça sera précisé à la New Delhi World Book Fair prochainement en février. On se réjouit de savoir qu'à nouveau, ce lien littéraire va exister grâce à ce choix Goncourt.
Si on a vécu le démon avant quand même, si on a vaincu le démon avant. Pardon.
Alors précisément, Catherine Clément, est-ce que vous avez le projet de retourner en Inde prochainement?
Pour l'instant, je ne peux pas. Ni vous non plus.
Hélas.
Ça dépend beaucoup de cette catastrophe et des conséquences de cette catastrophe. Parce que pour l'instant, c'est terrible et on ne connaît pas les vrais chiffres. Le chiffre des morts d'hier, qu'il faudrait multiplier par 10 selon les experts, était 4354. Multiplié par 10. Par jour, hein. Et encore, les chiffres officiels ne veulent absolument rien dire. Mais les cadavres traînent partout. Ça, on le sait.
Et j'imagine, quand ce sera possible, vous irez directement à Calcutta, Catherine Clément?
Ah non!
Non, pas à Calcutta.
J'irai voir ma vache.
Elle est où, votre vache?
Ah, elle est à 100 km de Delhi, dans une vallée perdue, où une de mes amies a une ferme écologique et où j'espère qu'elle est encore vivante, cette vache. Enfin, sinon, je vais en acheter une autre. Et c'est là que je vais, point final.
Bon, je ne sais pas quand est-ce que vous, Catherine Clément, ou moi, j'espère, pourrons retourner à Calcutta.
Je vous le souhaite.
On nous le souhaite, je vous le souhaite aussi. Mais en attendant, magie de la littérature, c'est qu'on peut lire Autoportrait de Calcutta sans y aller. Et on y est déjà, grâce en effet à tout ce que vous nous en dites. Ces souvenirs, cette érudition, ces portraits, ces facéties, ces paradoxes, ces contradictions. Merci encore.
Merci.
Je rappelle, Catherine Clément, que ce livre Autoportrait de Calcutta a paru aux éditions du Seuil.
Merci beaucoup.
Littérature sans frontières.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire. En sol majeur.